Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Vous venez d'envoyer un email. Connaissez-vous son parcours pour qu'il parvienne à son destinataire? Êtes-vous au courant de la pollution que ce type d'action, omniprésente évidemment dans nos sociétés, génère? Voilà le point de départ de notre débat ce soir. Alors que se poursuit la COP26 à Glasgow, on s'interroge sur le rôle du numérique dans le réchauffement climatique. Le numérique, aujourd'hui responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, c'est un chiffre qui devrait doubler dans les 4 prochaines années face à nos besoins qui sont toujours plus importants dans ce domaine. Alors que l'on a souvent fait rimer dématérialisation et environnement, le numérique serait-il un ennemi du climat? Et des solutions existent-elles pour qu'il devienne un allié? Voilà nos questions ce soir, soyez les bienvenus.
RFI.
Et pour répondre à ces questions, nos trois invités, d'abord à mes côtés en studio, Guillaume Pitron, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, réalisateur, et vous êtes l'auteur du livre « L'enfer numérique, voyage au bout d'un like ». Nos deux autres invités sont en ligne avec nous ce soir. Lise Breteau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate, spécialiste en numérique, membre du collectif Green IT, qui a notamment travaillé, vous allez nous en parler, sur la proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Leïla El-Gayed, Gambier, bonsoir.
Bonsoir.
Notre troisième invité, chercheur en comportement du consommateur, spécialiste de la consommation pro-environnementale, et vous êtes également professeur en marketing à l'école Toulouse Business School. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Je me tourne vers vous, Guillaume Pitron, auteur de ce fameux livre « L'enfer numérique, voyage au bout d'un like ». La pollution numérique, c'est quoi? Parce qu'elle est invisible, cette pollution. Je citais par exemple l'envoi d'emails. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? À quoi correspond cette pollution?
D'abord, c'est une pollution matérielle, puisqu'il faut des matières premières pour fabriquer les téléphones portables, les ordinateurs, les tablettes, ces outils électroniques grâce auxquels nous allons rentrer dans Internet, nous allons pouvoir surfer sur Internet. Un téléphone, aujourd'hui, ça ne sert pas qu'à téléphoner. Ça sert à plein de choses, et donc du coup, ce sont des téléphones, des interfaces, comme on dit, ultra puissantes, et en même temps, qui doivent tenir dans la poche. Et donc, pour trouver la meilleure manière de résoudre cette quadrature du cercle, on a besoin de 30, 40, 50, jusqu'à 60 matières premières pour faire fonctionner un téléphone portable, pour le fabriquer. Or, ce sont des ressources très diluées dans les corps terrestres, pour une partie d'entre elles, qu'il faut aller chercher avec un coût environnemental. Et puis après, il y a un autre coût, dans une moindre mesure, mais quand même important, c'est un coût énergétique. Il faut produire de l'électricité, donc un coût électrique, puisque cette électricité, elle va servir à faire fonctionner notamment les centres de traitement de données qui stockent notamment les données qu'on s'échange et qu'on envoie depuis un téléphone portable, les fameux likes. Et là également, il y a un coût, puisque cette électricité, eh bien, il faut la produire à partir soit d'uranium, de charbon, de gaz naturel, de pétrole, et ainsi de suite.
Et c'est ça qui produit le plus de pollution dans le numérique?
C'est d'abord la pollution des matières premières. Le numérique est présenté comme virtuel, on parle souvent de virtualisation de nos existences, de réalité virtuelle, de dématérialisation. En fait, la somme de matières premières nécessaires pour fabriquer les équipements numériques et pour faire fonctionner cette gigantesque infrastructure Internet qui est composée de centres de données, les fameux data centers, mais aussi de câbles.
Alors les data centers, c'est là où on retrouve, sont stockées nos données qui
absolument.
Sont collectées à chaque fois, que ce soit, on va donner des exemples, c'est important, c'est parlant, vous disiez un commentaire,
emails,
un email, c'est stocké tout ça dans des, parfois c'est stocké dans plusieurs, un même email peut être stocké dans plusieurs data centers.
Il l'est systématiquement.
Et ça ressemble à quoi ces data centers?
Ce sont d'immenses, alors ça peut faire la taille à un data center d'un réfrigérateur, comme ça peut faire la taille de 110 terrains de football. C'est le plus grand centre de données de la planète qui se trouve au sud de Pékin. Certains peuvent faire la taille, en tout cas, de plusieurs terrains de football à l'intérieur. Alors, il se trouve partout dans le monde, avec des grands hubs, comme on dit, des carrefours, notamment sur la côte est américaine, historiquement un grand centre géographique de traitement des données, mais il y en a à Paris, il y en a à Dublin, il y en a à Francfort, il y en a à Londres, il y en a un peu partout sur Terre, là où finalement se concentrent les populations humaines. Il faut savoir qu'il y en a 3 millions sur Terre, des centres de données, c'est un chiffre de l'ADEME. Donc on nous avait vendu le cloud, et puis en fait on se retrouve avec 3 millions de centres de données, avec plusieurs centaines d'entre eux qu'on appelle hyperscale, c'est les plus grands d'entre tous. Donc tout ça, c'est de la matière. Donc on revient à votre question. Cette matière, eh bien, elle est nécessaire pour fabriquer tout ce monde censément virtuel. Donc rien n'est virtuel. Tout est profondément matériel. Et c'est ça le grand défi aujourd'hui qui nous est posé quand on parle de virtualiser nos existences.
Leïla El-Gayed Gambier, vous qui êtes chercheur en comportement du consommateur, est-ce que les consommateurs sont au courant de cette pollution invisible du numérique?
Alors justement, avec deux collègues, nous avons publié l'année dernière une recherche où on s'est vraiment intéressé à la question de l'impact écologique du numérique du point de vue du consommateur. Il en ressort plusieurs choses. D'abord, c'est qu'effectivement, les internautes, dans l'ensemble, ils restent assez peu informés, assez peu conscients de l'impact environnemental de leurs pratiques numériques. Donc certains, même tombaient des nues, hein, quand on leur donnait des chiffres, quand on leur disait que, ben voilà, en visionnant des vidéos sur YouTube, en envoyant des mails, en chattant sur Messenger, eh bien, ça avait un réel impact environnemental. Et ce qu'on a pu observer aussi, c'est que globalement, ils sont assez peu enclins à modifier leurs pratiques, hein, puisqu'ils se sentent assez impuissants face à l'omniprésence du numérique, que ce soit pour leur travail, pour se divertir. Et finalement, ils attribuent la responsabilité d'agir plutôt aux entreprises et aux pouvoirs publics. Ils ont du mal à endosser leurs responsabilités au niveau individuel. Voilà.
Alors, les pouvoirs publics, justement, et comme ça, on va faire un bon premier tour, je trouve, de plateau. En font-ils assez ? Lise Breteau, je me tourne vers vous. Vous êtes membre de ce collectif Green IT qui a travaillé pour la proposition de loi qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Le Sénat a adopté le 2 novembre dernier, donc il y a deux jours, en deuxième lecture, cette proposition de loi. C'est une avancée importante. Qu'est-ce qu'elle propose ?
Oui, c'est une avancée importante. On peut dire que c'est une première mondiale.
Une
de faire une grande loi. Allô ?
Oui, vous avez été coupé. On peut dire que c'est... On n'a pas entendu la suite de votre phrase.
Oui, que c'est une première mondiale.
D'accord.
D'adopter une loi, une grande loi, sur l'empreinte environnementale du numérique. Et ce que cette loi... un des grands intérêts de cette loi, c'est qu'elle essaye de brosser un petit peu tous les sujets concernant l'écologie et le numérique. Donc ça va de l'utilisateur à l'allongement de la durée de vie des équipements, en passant par la réglementation des data centers, encourager certaines pratiques vertueuses par les entreprises, par les collectivités, l'État, etc. Donc en fait, ils essayent de mettre en œuvre tout un panel de mesures pour avoir un effet assez large dans le changement de pratique et sans essayer de ne cibler qu'une partie du public. Vous parliez tout à l'heure du fait que, Leïla parlait tout à l'heure du fait que les utilisateurs n'ont pas très envie de changer leur pratique. Et en fait, là, l'idée, c'est de cibler les utilisateurs, de cibler les collectivités, de cibler les professionnels, de cibler un peu tout le monde.
Et vous qui êtes avocate, est-ce qu'il y a des freins pour réduire empreinte écologique du numérique ? Est-ce qu'il y a des lobbies qui... parce qu'aujourd'hui, le numérique, c'est de plus en plus développé. Ça, on va poser la question de l'avenir, évidemment.
Oui, alors des lobbies, il y en a partout, tout le temps, pour tout, c'est normal. Surtout quand on parle d'écologie. Quand on parle d'écologie, on parle souvent de contraintes qui peuvent se transformer en opportunités pour les entreprises, mais qui nécessitent, pour être transformées en opportunités, de changer un petit peu certains business models, certaines stratégies, certaines pratiques internes. Et ça, parfois, on a de la résistance au changement. Exactement comme pour les utilisateurs, en fin de compte, les entreprises ont aussi des résistances au changement. Et nous, ce qu'on porte beaucoup dans le collectif Green IT, c'est par exemple de mettre l'accent sur le reconditionné. Développer bien plus la filière du reconditionné permettrait de créer un marché, donc des entreprises, des emplois, des opportunités, etc., commerciales. Et ça permettrait de réduire quand même substantiellement l'empreinte du numérique, qui est, comme Guillaume Pitron l'a dit tout à l'heure, beaucoup liée à la fabrication des équipements.
Oui,
ça, c'est un point. Et on a un autre grand volet qui est porté par le collectif et qui est aussi un petit peu abordé dans la loi du Sénat, là, qui vient d'être adoptée. C'est développer bien davantage ce qu'on appelle l'éco-conception des services numériques. Et ça, c'est un métier. Il y a des tas de professionnels qui travaillent déjà sur ce sujet. Et ça, ce serait une filière économique à développer qui serait intéressante économiquement et écologiquement.
Guillaume Pitron, vous avez levé la main, c'est sur le reconditionné que vous souhaitiez réagir, donc le fait de ne pas acheter un smartphone neuf, mais qui passe par, on va pas parler smartphone d'occasion, parce qu'il est retravaillé, c'est pour ça qu'on appelle reconditionné.
Il est d'occasion, et il a été éventuellement réparé, de façon à pouvoir être vendu, mais je voulais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit, et c'était votre question aussi, quels sont les freins ? Il y a un mot qu'on doit tous connaître maintenant, c'est le mot obsolescence.
Obsolescence programmée.
C'est-à-dire que vous avez des pratiques marketing qui sont celles notamment des fabricants de ces téléphones portables qui en fait visent à rendre l'objet le plus obsolète le plus rapidement possible. Obsolescence par exemple technique, vous avez concrètement un téléphone qui contient une batterie. La batterie est généralement ce qui s'use le premier dans le téléphone et plutôt que d'aller changer la batterie, vous découvrez que la batterie est collée à votre téléphone, vous ne pouvez pas changer la batterie, vous êtes obligé de changer le téléphone. Mmh. Obsolescence logicielle, vous avez un vieux téléphone sur lequel vous allez télécharger la dernière version de votre operating system, comme on dit, votre OS, et en fait, tout d'un coup, vous allez vous rendre compte que votre téléphone rame ou bien qu'il ne peut pas télécharger la dernière application que vous aimez bien, parce qu'il y a une incompatibilité entre le logiciel et le téléphone. Et donc, vous allez jeter le téléphone alors qu'il fonctionne très bien. Et puis, l'obsolescence culturelle. Vous avez acheté l'iPhone 12 l'année dernière, mais l'iPhone 13 vient de sortir, il est 100 fois mieux, et vous allez acheter un iPhone 13, et du coup, le précédent fonctionne très bien, mais voilà. Donc, vous avez ces types d'obsolescence-là qu'il faut bien avoir en tête, parce que pour lutter contre, justement, enfin, pour permettre un allongement de la durée de vie des produits, et donc baisser la pollution matérielle du numérique, la pollution environnementale du numérique, c'est probablement par là que ça commence.
Alors, sur l'obsolescence programmée, justement, je reviens vers vous, Lise Breteau, parce que vous nous avez dit que ça faisait partie des décisions qui font partie du cadre de la proposition de loi justement visant à réduire cette empreinte environnementale du numérique en France. Mais concrètement, qu'est-ce qui est prévu concernant l'obsolescence programmée, la lutte contre l'obsolescence programmée dans cette démarche donc, de réduire l'empreinte environnementale du numérique?
Alors, l'obsolescence programmée, elle commence à être encadrée, à savoir interdite. Il y a déjà eu des textes sur ce sujet il y a quelques années. Et le texte actuel, la loi qui vient d'être adoptée, essaye d'élargir de solidifier le système. Un texte avait érigé en délit l'obsolescence programmée, mais les conditions étaient trop dures. Donc là, on essaye d'avoir un système qui soit un petit peu plus souple pour la faire reconnaître plus facilement et la traquer plus facilement. Et ça fait partie effectivement des pratiques qui sont pas du tout vertueuses et que la loi a pour rôle de limiter et pour permettre l'émergence de filières économiques un petit peu plus durables, un petit peu plus vertueuses.
Et Guillaume Pitron, vous qui observez ce sujet de près, est-ce que vous avez l'impression que ce projet de loi est un vrai pas en avant ?
J'en suis persuadé. Alors, il y a bien évidemment des défauts à ce projet de loi. Tout n'a pas été fait pour justement rallonger la durée de vie des produits électroniques. Pour autant, j'ai quand même fait le tour du monde de cette pollution numérique et le tour du monde des solutions. Rares, enfin sinon il n'y en a pas, des pays qui ont été capables de proposer une loi couvrant un certain nombre de différents chapitres de la pollution, comme le fait la France. Mmh. Quelquefois, le sujet est traité sous l'angle d'un label émis par un organisme privé qui s'attaque à un sujet particulier de cette pollution, mais pas à la fois aux objets du quotidien et puis également les centres de traitement de données, en passant par la nécessaire éducation. Dès le collège, dès le lycée, des consommateurs à ces sujets-là, parce que finalement, comme on l'a dit, on n'a pas conscience, cette pollution est invisible. Donc c'est une loi qui, quand même, n'est pas parfaite, mais qui, je trouve, est ambitieuse sur le papier, et qui, à l'arrivée, débouche et qui fait quand même la France un pays leader sur cette question de la lutte contre la pollution numérique.
Et la jeunesse, on va en parler, évidemment, parce que c'est important, cette même jeunesse qui descend dans la rue pour défendre le climat et qui utilise à outrance ses smartphones. Leïla El-Gayed Gambier, vous avez aussi cette casquette de professeur en marketing à Toulouse Business School. J'imagine que ça plaît pas vraiment aux fabricants de smartphones, notamment ces avancées en faveur de la lutte contre l'obsolescence programmée, le reconditionnement, on l'a dit.
Oui, alors moi je voudrais déjà rebondir sur ce qui vient d'être dit. Guillaume Pitron parlait d'éducation, en effet, sur notamment aussi tout ce qui est autour de l'obsolescence programmée qui est un vrai sujet. Mais là pour le coup, on voit que les consommateurs ils commencent à être un peu au fait de ces questions-là. Par contre, quand on leur parle de la pollution du numérique, oui, le coût écologique lié à la fabrication des équipements, ils en sont conscients. Par contre, le coût écologique lié à l'échange de données, ça, c'est beaucoup plus abstrait. C'est là qu'il faut de l'éducation. Parce que, en fait, finalement, c'est ce qu'on disait au départ, hein, ça paraît virtuel, alors qu'en réalité, l'impact est bien concret, bien tangible, finalement. Mais on a du mal à imaginer, en tant qu'individu, comment un simple clic, finalement, va avoir un impact très concret. Donc, c'est là qu'il va falloir travailler pour rendre les choses beaucoup plus concrètes et réduire cette distance psychologique où on a l'impression que en ligne c'est virtuel, on peut faire ce qu'on veut, ça n'a pas d'impact finalement.
Mais comment travailler? Parce que il y a ce frein, cette réaction du côté des fabricants. Il y a un enjeu énorme sur ces smartphones. C'est une industrie monstrueuse.
En effet, mais alors il faut savoir quand même que les gens du numérique, alors au-delà des fabricants de téléphones, hein, les GAFAM de manière générale, ils commencent quand même à faire de réels efforts avec voilà, des entreprises qui s'engagent à passer à du 100% renouvelable notamment. Donc les géants du numérique ne font pas rien. Hein.
Et ça, c'est pas que l'image selon vous. Ce sont des avancées.
Oui, il y a des réelles avancées. Ils sont obligés. Hein. De toute façon, ils n'ont pas tellement le choix étant donné l'intensification des usages. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas d'autre choix.
Guillaume Pitron, quelle action ont les GAFAM ? Parce qu'on a l'impression que justement, c'est vraiment le cadet de leurs soucis, l'écologie. Non, pas vraiment ?
C'est plus le cadet de leurs soucis. Je pense en particulier aux GAFAM donc, qui ont leur propre centre de traitement de données, mais qui également, je pense à Amazon Web Services, qui est une branche du groupe Amazon, et qui est un géant de la colocation. C'est-à-dire que c'est une branche d'Amazon qui propose des services de stockage de données pour le compte d'autres entreprises. Et ces GAFAM-là sont tout à fait conscients de l'immense consommation d'électricité de leurs centres de données. Vous avez des ONG, notamment Greenpeace, qui depuis plusieurs années sont très actives pour pointer du doigt la consommation d'électricité de ces entreprises. De l'intérieur de ces entreprises, notamment Google et Amazon, surgissent des pétitions émanant d'employés qui disent comment est-ce que vous faites pour réduire l'empreinte carbone de cette production d'électricité ? Comment est-ce que vous faites en sorte que finalement que l'électricité vienne moins du charbon et du pétrole et du gaz naturel et davantage des énergies dites renouvelables ? Et donc, en fait, ces entreprises-là, elles se sont rendues compte qu'il y a un immense enjeu de réputation. Il ne faudrait quand même pas qu'elles soient pointées comme étant ennemies du climat, alors qu'elles pourraient prétendre, compte tenu de la virtualisation des services qu'elles permettent, elles pourraient prétendre être justement des alliés du climat. Et donc là, on voit ces entreprises agir pour surtout préserver leur réputation. Et ce qu'elles font en premier lieu, il y a des réserves à ce constat, mais pour autant, elles verdissent leur mix électrique. Donc la source d'électricité provient davantage du solaire, de l'éolien que du charbon.
Donc pour tenter de répondre à la question de notre débat, est-ce que le numérique est un allié ou un ennemi du climat ? Aujourd'hui, les technologies digitales, je vais prendre un peu de hauteur, c'est 10% de la consommation mondiale d'électricité, donc c'est important. C'est un chiffre qui devrait être multiplié par deux en 2025. 2025, c'est demain, c'est dans 4 ans. Donc on imagine que dans 2050, ça va exploser. Non, vous nous dites. Alors, parce qu'il y a ces garde-fous, il y a ce qui s'organise en parallèle que vous venez de citer ?
En fait, on ne sait pas. C'est-à-dire que d'un côté, il faut bien le dire, le numérique, il permet des tas de gains environnementaux. Vous voyez, par exemple, je pense à la start-up qui s'appelle Too Good To Go, qui a d'ailleurs des bureaux en France. En gros, ça consiste à dire, vous avez un produit qui est périssable, alimentaire, et bien moi, grâce à ma plateforme, je vais mettre en lien le vendeur d'un produit périssable avec son acheteur. Et donc, ça ne va pas être perdu, ce plat qui risquerait d'être jeté à la poubelle le lendemain. Vous imaginez un peu les masses considérables de produits alimentaires qui ne sont pas gaspillés. Est-ce que ça signifie pour le climat que ne pas avoir à déforester pour, à la place d'une forêt, qui plus est par exemple en Amazonie, mettre un champ à la place ? Donc ça, c'est un gain concret. Pour autant, de l'autre côté, il y a des nouveaux usages par exemple le numérique. On passe notre vie sur le numérique, avec des usages qui sont parfaitement utiles, et des usages qui sont parfaitement futiles, voire inutiles.
Il va falloir passer à la sobriété numérique ou pas ?
Ça n'existe pas, la sobriété. Moi, je mets ce mot de côté.
Elle peut être imposée.
Rien dire. Elle sera imposée de force.
S'il y a un objectif de lutte contre le réchauffement climatique, des objectifs à tenir.
En fait, aujourd'hui, on parle de quoi, concrètement ? On parle d'intelligence artificielle, on parle d'informatique quantique, on parle de big data, on parle d'apprentissage profond. On parle, quand on regarde la dynamique aujourd'hui dans laquelle nous sommes lancés, qui plus est dans une période de Covid où ça a virtualisé nos existences pour le meilleur d'un point de vue économique et social, il est absolument complètement, selon moi, vain de parler de sobriété. Il n'y aura pas de sobriété. On peut modérer, on peut essayer de corriger, mais il n'y aura pas de sobriété. Et c'est cette dynamique qui est intéressante. C'est pas la photo, c'est le film qu'il faut regarder. On va vers une explosion de ces usages, une explosion de leur empreinte numérique. D'un côté, l'électricité va être plus verte. De l'autre, les industriels vont essayer de optimiser le stockage de données, faire des téléphones qui soient plus performants à un coût écologique moindre. Et de l'autre, nos usages explosent. Et donc, alliés ou ennemis du climat, aujourd'hui, comme je vous le dis, les chiffres, ils ne permettent pas de trancher ça, mais vu la dynamique, je ne suis pas très optimiste.
Ah, parce que j'allais passer la parole à Lise Breteau qui veut réagir depuis quelques temps, me dit notre réalisateur, et je trouvais que jusque-là, il y avait quand même un ton assez optimiste pour répondre à cette question numérique alliée ou ennemie du climat. Qu'en pensez-vous ?
Vous me parlez à moi, là.
Oui, Lise Breteau.
En fait, je voulais préciser ce que disait Guillaume à l'instant. Déjà, pour savoir si le numérique peut être un allié ou un ennemi, il faut pouvoir calculer son empreinte. Or, je reviens un petit peu en arrière dans la discussion, les gros prestataires de cloud, les gros prestataires de services numériques donnent difficilement l'info sur leur empreinte environnementale globale. Bien souvent, on parle que de l'empreinte carbone, parce qu'on va remplacer, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, une consommation d'électricité par une consommation d'eau pour refroidir un data center. Donc effectivement, votre empreinte carbone, elle tombe, parce que vous n'utilisez plus d'électricité. Par contre, vous augmentez votre consommation d'eau. Donc votre indicateur eau, il va monter en flèche. Et ça, c'est pas pris en compte quand on dit neutre en carbone. Donc il faut prendre une empreinte environnementale globale. Dans le collectif Green IT, on a 4 indicateurs environnementaux. L'utilisation de ressources, donc qu'est-ce qu'on va excaver comme terre pour fabriquer un équipement, l'émission de gaz à effet de serre, la consommation d'eau et la consommation d'énergie primaire. Donc déjà, il faut avoir cette info globale pour pouvoir mesurer déjà l'empreinte d'un équipement et ensuite l'empreinte de son usage. Et c'est à ce moment-là seulement, une fois qu'on a calculé cette empreinte environnementale, qu'on peut savoir si le numérique est ennemi ou ami ou allié du climat.
Guillaume Pitron, vous partagez ce point de vue. On manque d'éléments aujourd'hui pour vraiment répondre à cette question. Je vais aussi apporter un élément à ce que vient de dire Lise Breteau. En France, il y a eu un article de la loi qui figurait dans le projet de loi Climat et Résilience, qui a été censuré par le Conseil constitutionnel et qui prévoyait d'autoriser l'ARCEP, donc qui est le régulateur des télécoms, l'autoriser à collecter des données concernant l'empreinte environnementale de nombreux acteurs du numérique. Ça a été censuré.
On touche exactement au cœur du sujet et qui est le casse-tête du journaliste que je suis, qui a enquêté 2 ans sur la question, c'est qu'à un moment, en fait, quand on parle de chiffres, c'est la jungle. Et à un moment où, justement, on parle d'informatique quantique et d'apprentissage profond, personne ne sait le coût d'un email et le coût d'un like, le coût écologique. Et tout le monde n'est pas d'accord, personne n'est d'accord, plutôt. Et dès que vous évoquez un chiffre, vous faites tomber dessus. Donc c'est très difficile. On parle vraiment d'une jungle lorsqu'on parle de ces chiffres. Alors là, les chiffres que vous avez mentionnés, c'est des chiffres qui sont des chiffres mentionnés et calculés par le Shift Project, un think tank français, sur lesquels il y a un relatif consensus. Mais effectivement, la nécessité de formaliser tout cela est très compliquée. Et c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, entre ce que ça rapporte pour l'environnement et ce que ça coûte, personne ne sait. Celui qui dit qu'il sait, pour moi, je ne le crois pas. Je ne le prends pas au sérieux. La réalité, c'est qu'on ne sait pas.
Voilà. Alors là, on se demande jusqu'à maintenant, est-ce que le numérique peut ne pas être un ennemi ? La question, c'est comment est-ce qu'il peut être un allié du climat ? À l'agenda de la COP26, il y a la préparation d'une feuille de route pour utiliser l'intelligence artificielle contre le changement climatique. Est-ce que je peux vous faire réagir sur ce point-là, Laïla El Gayet de Gambier ? Ça fait quelque temps qu'on vous a pas entendu.
Oui, alors simplement juste pour terminer sur la question de comment chiffrer, moi en tant que chercheur...
Rapidement, parce que j'aimerais qu'on avance.
Oui, très très rapidement. C'est vrai que c'est quand même tout l'enjeu est là, parce que si on essaye de définir ce qu'est un comportement écologique en ligne du point de vue de l'individu, c'est vrai que s'il s'agit de parler de sobriété, de réduire les usages, bon d'accord, on va solliciter moins les serveurs distants, les data centers, on va réduire notre empreinte. Par contre,
et c'est impossible, dit Guillaume Pitron.
Voilà. Et si on commence par contre à proposer des comportements alternatifs, par exemple sauvegarder ses fichiers sur un disque dur externe au lieu de les sauvegarder sur le cloud, eh bien là effectivement on manque de données et tout l'enjeu est là parce qu'on ne sait pas si ces comportements alternatifs au final sont réellement plus vertueux. Donc je reviens à votre question, pardon, c'était par rapport à l'intelligence artificielle.
Oui, voilà, est-ce qu'on peut utiliser, c'est un des sujets qui figure à l'agenda de la COP26, voilà, une feuille de route, c'est un des objectifs à Glasgow cette semaine. La préparation d'une feuille de route pour utiliser l'intelligence artificielle, pour l'utiliser contre le changement climatique, pour que ce soit vraiment un allié.
Écoutez, je ne suis pas du tout experte de la question. Maintenant, c'est sûr que les nouvelles technologies, les innovations peuvent aider avec certains algorithmes. Vous parliez tout à l'heure alliés ou ennemis, on sait qu'aujourd'hui il y a un certain nombre d'applications qui peuvent permettre de réguler sa consommation énergétique, par exemple. Il y a des innovations technologiques qui peuvent aller dans le bon sens. Maintenant, l'intelligence artificielle, très sincèrement, je ne sais pas.
Guillaume Pitron.
Dire, l'intelligence artificielle pour le climat, c'est du bullshit.
D'accord.
Voilà ce que j'en pense. C'est le dernier gadget à la mode qui a été trouvé pour justifier, mais je suis pas technophobe, mais pour justifier l'accélération de cette industrie, et on la couvre de vert pour dire allons-y.
Donc ça veut dire qu'on peut pas, en gros, parce que l'intelligence artificielle, l'objectif c'est de l'optimiser, pour qu'elles puissent remplacer les ressources humaines naturelles qui créent de la pollution.
L'IA au service du climat, ça peut être par exemple de dire, grâce à l'IA, l'intelligence artificielle, on va modéliser le changement climatique. Donc ça peut être tout à fait utile. Encore une fois, quand il est dit l'IA pour le climat, ça peut exister. Mais il n'y a pas que ça dans l'IA. En fait, vous savez quoi ? On n'a jamais créé l'intelligence artificielle pour sauver le climat. Je veux dire, ça n'a jamais été dans l'ADN du numérique de se préoccuper du climat. Aujourd'hui, on recouvre ça d'un coup de peinture verte pour en fait rendre ces technologies plus acceptables. Mais ça va d'un côté permettre effectivement quelques progrès, mais de l'autre, à quoi on va servir ? Pourquoi on va faire l'IA ?
Mais est-ce qu'il y a quelque chose dans le numérique qui peut permettre
Bien sûr.
De faire avancer cette lutte contre le réchauffement climatique.
Je vais vous le dire, par exemple, modéliser le changement climatique. Par exemple,
c'est-à-dire
les données, grâce à un certain nombre de données en big data qu'on n'arrive pas à traiter avec l'intelligence humaine, on mêle des algorithmes à ces calculs-là de façon à pouvoir prendre en compte un certain nombre de critères, de façon à pouvoir dire, compte tenu des informations dont nous disposons sur le réchauffement des océans, leur acidification, la fonte de la banquise, eh bien, on sait que le réchauffement climatique va être de temps à tel horizon, et du coup, ça permet d'adapter des politiques climatiques en conséquence. Grâce aux données qui proviennent des constellations de satellites, des données notamment imagées, on est capable de dire, attention, la barrière de corail au large de l'Australie est en train de s'abîmer, ou au contraire, telle population de thon en disparition se porte beaucoup mieux. Donc ça, ce sont des sujets très concrets. Mais après, il faut mettre en face de ces usages vertueux tous les usages différents qu'on va faire de cette intelligence artificielle-là. Et c'est là, en fait, que je vois absolument pas sincèrement, j'interroge volontiers les personnes qui avec qui je débat aujourd'hui, mais est-ce que vraiment l'IA va être mise au service du climat de façon générale et de façon à ce que le résultat soit positif? Moi, je n'y crois pas une demi-seconde.
Et les gestes pratiques, Laïla El Gayed Gambier l'a évoqué, on avait parlé à un moment, ça a été comme ça que le numérique a été valorisé en rapport avec l'environnement, arrêter d'imprimer vos factures, passer au numérique. Est-ce qu'il y a des gestes pratiques de cette manière? Parce que le consommateur est régulièrement interpellé sur ces questions environnementales. Est-ce que ça peut toucher aussi dans cet objectif de lutte contre le réchauffement climatique? Je vous pose la question, Guillaume Pitron.
D'accord. Ouais. Oui, absolument. Alors, on peut tout à fait dire que l'on va, par exemple, il y a un sujet très concret qui consiste à regarder une vidéo plutôt en Wi-Fi que sur la 4G. Et en fait, on consomme 23 fois moins d'énergie en passant par le signal Wi-Fi que par la 4G. Donc c'est un geste très très concret qui permet de prendre conscience que tout d'un coup, on peut agir. Après, de vous à moi, dire je vais vider ma boîte mail pour pouvoir sauver la planète, là aussi, je pense que c'est vider l'océan Pacifique à la petite cuillère. Parce que, encore une fois, ce qui nous arrive, c'est des révolutions technologiques absolument colossales qui vont produire des données absolument colossales. On va arriver dans l'Internet des objets, l'Internet de tout, l'Internet des corps, l'Internet des sens. Vider mon email face à ça, c'est pas sérieux.
Voilà. Donc on a compris en tout cas que le numérique permettait, sur le plan environnemental, le point précédent que vous avez
absolument
Développé était très important. Lise Brotteau, je voudrais terminer avec vous rapidement parce que c'est terminé dans une minute. Vous qui êtes avocate, est-ce que il y a une action du droit qui peut être importante justement dans cette lutte contre le réchauffement climatique avec le numérique?
Oui, bien sûr, il y a deux grands volets. L'action premièrement législative, comme ce qui vient d'être fait dans cette loi de réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Donc, apporter un cadre réglementaire et législatif pour modifier les marchés, modifier les pratiques, ça c'est très important. Et ensuite, il y a un volet contentieux. On le voit, alors c'est pas du numérique, mais ça reste une affaire de climat et d'écologie. L'affaire du siècle, qui a été menée par plusieurs ONG pour contraindre l'État à respecter ses engagements en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc moi, je vois ces deux grands volets, changement des pratiques en amont et en aval contentieux.
Eh bien, c'est intéressant. On va terminer comme ça avec vous, Lise Brotteau et Guillaume Pitron, sur les pistes comme ça qui permettent de réduire l'empreinte écologique du numérique. Merci beaucoup à vous trois. Donc, Guillaume Pitron, journaliste, réalisateur, auteur du livre L'Enfer numérique, voyage au bout d'un like. Lise Brotteau, avocate spécialiste en numérique, membre du collectif Green IT. Et Laïla El Gayed Gambier, chercheur en comportement du consommateur, spécialiste de la consommation pro-environnementale, professeur en marketing à Toulouse Business School. Merci à Florence Ponce à la préparation de ce débat. Jean-Philippe Thury à la réalisation. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans 30 secondes, c'était RFI Soir.
Tous les jours,